Messieurs, dames, bonjour, chers auditeurs, bonjour, Jean-François Martinez, heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, donc, mon invité, c'est Madame Anne-Sophie Lauré, qui est déléguée départementale au Secours catholique.
Bonjour.
Anne-Sophie, comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va. Alors, ces périodes, c'est les périodes de fête, bien sûr. On doit être heureux, on doit être content, on doit célébrer aussi les festivités de Noël. Mais quand j'ai préparé l'émission, vous m'avez envoyé un état de pauvreté en France en 2024 qui est quand même assez noir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors oui, tout à fait. Le Secours catholique sort chaque année son état de la pauvreté en France. Et donc, ce rapport est sorti au mois de novembre et il est toujours aussi accablant. L'année dernière, les chiffres n'étaient pas forcément bons et cette année, toujours pas. Effectivement, on voit une augmentation de la pauvreté. Ce rapport, il a été établi à partir de personnes qu'on accompagne. Hein. On a accompagné au Secours catholique au niveau national à peu près 1 million de personnes. Et au niveau départemental, on a accompagné 8 500 ménages.
Voilà. D'accord. Alors, je rappelle, Anne-Sophie, oui, que la fondation, le Secours catholique, a été créée en 1946, qui accompagne plus de 220-230 familles, 58 000 bénévoles, avec plus de 900 salariés. En France, c'est 72 délégations, et à travers le monde, c'est plus de 50 ramifications.
Tout à fait. Et dans la délégation de l'Hérault, effectivement, nous avons...
Vous êtes délégué responsable de la délégation de l'Hérault.
Tout à fait. Et dans la délégation de l'Hérault, on a à peu près 880 bénévoles aujourd'hui. Et pour accompagner ce réseau de bénévoles, puisque le Secours catholique, c'est un réseau de bénévoles. Hein, vous l'avez bien dit, quasiment 60 000 bénévoles sur toute la France et 1 000 salariés. Donc les salariés sont là pour soutenir, accompagner le réseau de bénévoles. Et dans la délégation de l'Hérault, on a à peu près 45 équipes, on a 45 équipes de bénévoles, 880 bénévoles, donc, et on est 8 salariés pour accompagner.
Tous les départements français sont pourvus d'une logistique du secours catholique.
Tout à fait. Alors après, il y a des regroupements de départements, en fait.
Oui, plus petits, nous,
avec plusieurs départements réunis dans une seule délégation. C'est pour ça qu'on n'a pas autant de délégations que de départements, mais voilà.
Anne-Sophie, vous avez commencé à en parler, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est quoi la pauvreté ?
Alors,
parce qu'aujourd'hui, on dit il est pauvre, il n'est pas pauvre. C'est quoi exactement la pauvreté en 2024 ?
Alors, la pauvreté, elle a des visages multiples aujourd'hui. On a des personnes, on a un certain nombre de... Ce qu'on repère dans les Raux, c'est que, par exemple, on a beaucoup de personnes isolées. 80% des personnes que nous accompagnons sont des personnes isolées, avec ou sans enfants, mais isolées. Les femmes aussi sont particulièrement touchées par la question de la précarité. Ça a été aussi le thème de notre rapport l'année dernière, la question des femmes et de la précarité. On pourra, si ça vous intéresse, en parler et expliquer pourquoi. Mais on a aussi des personnes, ça c'est assez nouveau, des personnes âgées, isolées, qui poussent les portes du Secours catholique, parce que les retraites sont très basses, parce qu'il y a eu des ruptures dans leur vie, etc. Et qu'aujourd'hui, elles viennent aussi nous demander de l'accompagnement. Et puis, on voit aussi la précarité augmenter chez les jeunes étudiants, mais pas que. Et ça, je pourrais aussi vous l'expliquer, puisque dans la thématique de notre rapport, on a essayé de réfléchir à pourquoi, finalement, il y avait autant de difficultés, parce que le niveau de vie médian des personnes qu'on accompagne a diminué de 10% dans l'Hérault. Nationalement, ce revenu médian des personnes accompagnées par le Secours catholique est de 550 euros par mois, ce qui ne fait pas beaucoup pour vivre, pour payer son loyer, pour payer ses factures, pour payer l'alimentation. Voilà ce que c'est. Nous avons 75% des personnes que nous accompagnons qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mmh. Le seuil de pauvreté, je ne sais pas si vous savez comment il est fixé, le revenu médian des Français est à hauteur de 1 800 euros. Quand on vit en dessous du seuil de pauvreté, ça signifie qu'on vit avec 60% de ce montant-là. Donc, on est autour de 1 100 euros. Et on a... alors, c'était, pardon, je crois que je vous ai dit un faux chiffre. On est à 90% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 75% en dessous du seuil de l'extrême pauvreté, qui lui est le seuil est à 40% du revenu médian des Français.
D'accord.
Okay. Voilà. Oui, donc, en dessous de 800 euros. Ce qui fait effectivement pas beaucoup.
Alors, les personnes qui viennent chez vous, je suppose, ont déjà tenté par plusieurs biais de s'en sortir. Ils viennent en dernier recours.
Alors, c'est difficile, c'est variable. Les situations sont... Voilà, je pense que les gens viennent... En tout cas, ce qu'ils nous disent dans nos rapports, ce qu'ils viennent chercher avant tout, c'est une écoute. C'est un lien, c'est de la fraternité, c'est de la convivialité. C'est la première chose que les personnes viennent demander avant une aide financière ou autre. C'est vraiment de retisser du lien social, voilà. Et de reprendre confiance en eux. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à travers l'ensemble des activités qu'on a au Secours catholique. C'est de permettre aux gens de reprendre pied, de reprendre confiance en eux. Et même de pouvoir prendre une place, au sein de notre... au sein de notre association. Et on a beaucoup de personnes accueillies qui deviennent aussi des bénévoles chez nous, qui deviennent même des responsables de vie d'équipe, ou même qui sont représentants du Secours catholique au sein des CCAS, des villes et des communes du département.
Ces personnes donc, ont l'impression, avant de venir chez vous, de ne pas être écoutées.
Oui, elles ont l'impression d'être perdues, de ne pas savoir où frapper. Et notre rapport, justement, parle aussi de la question de la solidarité qui s'éloigne et de la protection sociale nationale qui, finalement, ne répond plus à leurs besoins. Parce que dans les chiffres aussi, il y a quelque chose qui a été extrêmement alarmant et repérant et qui était très alarmant, c'est la question des personnes sans ressources. Et on a plus d'un quart des personnes qui, aujourd'hui, viennent au secours, qui n'ont aucune ressource. Voilà. Et donc, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, on ait encore des gens qui n'ont aucune ressource et qui ne... Voilà. Et donc, on s'est rendu compte que la solidarité s'éloignait, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des critères d'éligibilité qui se sont largement durcis. Donc, en fait, on a des gens qui, précédemment, avaient droit à des aides, aujourd'hui, n'y ont plus droit. Voilà, c'est la question, notamment, par exemple, des jeunes, parce que les jeunes ont souvent, en démarrage de carrière, des contrats précaires, donc des petits contrats, et ils n'ont plus droit au chômage. Voilà, parce qu'il faut avoir des temps de cotisation qui soient plus longs. Donc ces jeunes se retrouvent qui n'ont pas le droit au RSA, parce que comme vous le savez, le RSA n'est pas... on n'a pas droit au RSA jusqu'à 25 ans. Mais il y a des jeunes qui sortent de l'école à 16 ans. Pour attendre 25 ans, c'est long. Et voilà, donc on a ce facteur-là. La deuxième chose, c'est que les services administratifs aussi s'éloignent. C'est-à-dire qu'on voit que maintenant, la majorité des démarches doivent se faire de manière dématérialisée. Hein, on n'a plus un interlocuteur qui vient répondre à nos questions, quand on a notamment une situation qui est un peu complexe, où on ne sait pas comment cocher les cases. Voilà. Et donc ça n'existe plus ou très peu. Voilà, il n'y a plus d'administration ouverte. Et les démarches administratives à faire de manière dématérialisée sont extrêmement compliquées et pas simples pour les personnes qu'on accompagne.
Anne-Sophie, on y reviendra après en fin d'émission. Je voudrais, vous avez parlé tout à l'heure donc des jeunes, vous avez parlé des femmes. Je voudrais un peu connaître la typologie des personnes que vous recevez au Secours catholique.
Je vous l'ai dit, c'est un peu les personnes, hein, des personnes isolées, des femmes, beaucoup de femmes. Hein.
Beaucoup
on a,
de femmes.
60, on a quasiment 60% de personnes qu'on accompagne dans les RO qui sont des femmes.
Monoparentales, c'est des personnes...
Il y a aussi des familles monoparentales, oui. Mais bien sûr, globalement, plutôt des femmes avec, des enfants. Mais on a 60% de femmes et à peu près 30% de familles monoparentales que nous accompagnons.
D'accord.
Et alors, l'année dernière, notre rapport l'expliquait particulièrement bien, la question des femmes. Pourquoi les femmes sont plus touchées par la précarité et la pauvreté que les hommes? Parce que les femmes, elles prennent soin des autres. Elles prennent soin d'abord de leurs enfants, oui. quand elles en ont. Elles prennent souvent soin de leurs parents quand ils sont âgés. Et donc, ces femmes ont souvent des carrières plus hachées que les hommes. Et donc, quand il y a un accident de la vie, c'est-à-dire, par exemple, le décès d'un conjoint, ou une séparation, un divorce, ou une maladie, ou un enfant malade, en fait, bah, ces femmes vont tomber beaucoup plus facilement dans la précarité que les hommes qui, eux, vont avoir une plus grande stabilité professionnelle que les femmes. Voilà. Donc les femmes donnent, il y a Cynthia Fleury qui est une philosophe, disait il faut donner de son corps. Ces femmes donnent de leur corps en fait pour aider, pour accompagner, pour être en solidarité. Et c'est elles qui sont plus facilement touchées par la précarité et la pauvreté.
D'accord. Vous parliez aussi des jeunes, donc en situation aussi très jeune, enfin, très tôt de problèmes. Il y a aussi, mais ce qu'on ne voyait pas il y a encore quelques temps, c'est les retraités. Vous en avez beaucoup de retraités qui sont...
En 10 ans, je crois que le nombre de personnes retraitées que nous accompagnons a doublé. Voilà, donc c'est effectivement aussi un signe. On connaît la problématique des pensions de retraite pour certaines qui sont très basses. Et là aussi, des femmes qui, des fois, ont peu de retraite parce qu'elles n'ont pas travaillé,
parce que ça a été fractionné
par rapport aux enfants. Parce qu'elles ont travaillé avec leur mari et qu'elles n'ont pas été déclarées à ce moment-là. Enfin, voilà. Et donc, ces femmes-là, aujourd'hui, oui, sont en grande difficulté. Et souvent, elles viennent justement aussi chercher, au travers de nos lieux d'accueil, du réconfort et de la chaleur humaine, parce que les personnes âgées sont isolées. On a beaucoup d'équipes, notamment dans les Hauts-Cantons ou dans le milieu plus rural. On a beaucoup de personnes âgées très isolées. Donc, on a des équipes qui vont à la rencontre de ces personnes âgées isolées, soit directement chez elles, soit aussi dans les EHPAD, parce que toutes les personnes...
Dans les EHPAD ?
Oui, on a des équipes de bénévoles qui interviennent dans les EHPAD et qui vont passer du temps, faire de la lecture, accompagner aussi les personnes qui sont isolées, parce qu'on peut être en EHPAD, alors on est soigné par les soignants, etc., mais on n'a pas forcément de visite, on n'a pas forcément de famille qui vient nous voir, on ne peut pas forcément sortir de son établissement. Donc voilà, on a aussi des équipes bénévoles qui accompagnent ces personnes âgées.
D'accord. Alors justement, à propos de ces bénévoles, on reviendra un peu à la typologie. Ces personnes bénévoles, donc il y a beaucoup d'écoute. Est-ce que ce sont des personnes qui ont un passé professionnel, psychologue, infirmier? Comment ça se passe, le recrutement?
Non. Alors,
vous êtes là pour nous l'expliquer.
Oui. Donc on accueille alors tout le monde vraiment déjà de manière totalement inconditionnelle, il faut le dire. Hein, le Secours catholique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et effectivement a été créé par Jean Rodin qui était un prêtre, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui peut être bénévole au Secours catholique qui veut, à partir du moment où vous partagez les valeurs du Secours, qui est
la fraternité,
solidarité, le partage, l'accueil de tous, et la non-discrimination. Voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez être bénévole chez nous. Alors, dans la délégation de l'Hérault, on a de multiples activités. On fait de l'accompagnement social, effectivement, et on aide les personnes qui ont des difficultés à accéder à leurs droits, d'accéder à leurs droits. Mais on a aussi beaucoup d'actions autour de l'accès à une alimentation qui soit digne. On ne sait pas faire du distributif au Secours catholique. On n'est pas...
La banque alimentaire.
On ne peut pas faire ça, on n'a pas les moyens. Par contre, on développe des actions autour de l'alimentation, comme des épiceries solidaires, où on travaille notamment avec des agriculteurs du coin. On essaye de travailler en circuit court et de permettre aussi à des personnes qui sont en précarité d'accéder à une alimentation choisie et une alimentation qui soit saine. Parce que des fois, la banque alimentaire, on sait, c'est très bien et heureusement que ça existe. Mais on n'a pas forcément toujours accès à des fruits et légumes, on n'a pas toujours forcément accès. Et les personnes aussi qu'on accompagne en précarité ont des problématiques de santé et elles ne peuvent pas tout manger. Voilà. Donc on développe des épiceries, on a aussi des jardins partagés.
Montpellier, vous en avez ?
Oui, on a des jardins partagés du côté de La Mausson et on a aussi un petit jardin partagé à côté des Arceaux. Voilà.
D'accord.
Et on a, on, on, nous avons également des cuisines partagées.
Ouais.
Et l'idée, c'est de, entre bénévoles, personnes accueillies, d'ailleurs on ne fait pas la différence, on cuisine, on prépare un repas qu'on partage avec plusieurs, avec d'autres bénévoles. Voilà. Et puis on ouvre aussi des créneaux cuisine pour les personnes qui vivent à l'hôtel, puisque comme vous le savez, la question aussi de l'hébergement et du logement dans l'Hérault est une problématique majeure. Donc nous avons beaucoup de familles qui vivent à l'hôtel, hein, qui sont logées par le 115, hein, c'est-à-dire, voilà, et qui ont de grosses difficultés, bien évidemment, pour cuisiner, puisque bah, elles n'ont souvent qu'un micro-ondes. Voilà. Donc on essaye d'ouvrir aussi des créneaux pour que ces familles puissent venir cuisiner. Donc voilà, on a des actions autour de l'alimentation, mais on a aussi des actions autour de la culture. On amène des personnes très éloignées de la culture à l'opéra, par exemple à Montpellier,
ou
au cinéma. Vous savez qu'on a des femmes qui vivaient dans des quartiers en périphérie du centre vraiment ville de Montpellier, qui n'étaient jamais passées Place de la Comédie, qu'ils ne connaissaient pas la Place de la Comédie. Voilà, c'est pour vous donner une idée de l'accompagnement aussi qu'on peut faire et qui est vraiment voilà, très chouette. Et elles vont faire des expositions de peinture. Voilà. On a aussi des ateliers pour lutter contre la fracture numérique, on en a parlé, la difficulté d'accès aux droits. Donc on les aide à faire leur démarche via un ordinateur.
On en parlera un peu plus après. Anne-Sophie, au niveau de la typologie, qu'est-ce qu'on rencontre ? On a fait le tour, on a énuméré. Est-ce qu'on a oublié quelque chose au niveau de
la... Non, je pense que... Voilà, moi, peut-être ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas de typologie, en fait. On peut tous, demain, être touchés par la précarité ou la pauvreté. 60% des personnes qui demandent d'être accompagnées par le secours ou qui, voilà, ont connu un accident de la vie. Donc les accidents de la vie, c'est soit une perte d'emploi, soit une maladie, soit un divorce. Voilà, c'est ça en fait. Personne, quand on est isolé, qu'on n'a pas forcément une famille ou un réseau, on peut très facilement tomber dans la précarité.
On peut être décramponné.
Demain, on peut tous se retrouver.
L'accident de la vie.
Exactement.
Vous parlez aussi dans votre rapport de 2024 de la hausse des personnes inactives. Mm-hmm. Alors, en termes peut-être social, une personne inactive, c'est quoi ? C'est une personne qui n'a plus de travail ?
C'est une personne qui n'est pas en emploi, effectivement.
Qui n'est pas en emploi.
Qui n'a pas d'emploi.
Donc, qui
n'est pas répertorié. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être un retraité et un inactif, par exemple. Voilà.
Alors, je suis un inactif, moi.
Pardon, attendez, je me trompe.
Non,
oui, c'est ça.
C'est ça. C'est une personne qui ne travaille plus.
Oui, qui ne travaille plus.
Officiellement.
Et officiellement, voilà. Et donc, on a une augmentation, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes aussi inactives aujourd'hui, donc des retraités, qui ont besoin, à un moment donné, d'être aidés, ou en tout cas qui demandent cet accompagnement-là.
Ouais, pour ces personnes-là, comment vous travaillez ?
Alors, comme je vous le disais, alors on a soit ces accompagnements sociaux quand on a besoin, par exemple, d'un petit coup de pouce à un moment donné, parce que on voit aussi la hausse des factures, d'électricité, etc. Un retraité, quand il a sa facture qui double ou qui triple et qu'il a une petite retraite qui n'augmente pas, il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on peut verser des aides financières et aider et éviter que la personne tombe justement dans la précarité ou aider pour un loyer. Voilà, on fait ça. Mais comme je vous le disais, la plupart des demandes, c'est aussi de passer du temps. Donc nous avons des accueils inconditionnels, des cafés solidaires, des cafés sourires.
Montpellier, vous en avez ?
On en a sur Montpellier.
Pas très loin
d'ici. Hein. On a à la maison Campredon, qui est rue du Général Campredon, de l'autre côté de la rue, en fait.
Oui. Ah oui, 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 oui.
Voilà, on a un grand espace, une sorte de tiers-lieu où on a là aussi une cuisine. Nous avons une cuisine partagée, une épicerie, un café solidaire, un accueil inconditionnel. Et l'objectif, voilà, c'est aussi de passer du temps avec les gens, de discuter, de prendre le temps d'échanger. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent ce qui permet de réchauffer les cœurs.
Bien sûr. Alors, on parlait aussi tout à l'heure du travail.
Oui.
Redonner un sens à la vie de chacun. En termes de travail, comment vous faites ?
Alors, on n'a pas de solution miracle. Hein. Vous savez que le département de l'Hérault est un département particulièrement touché par la précarité et la pauvreté, puisqu'on a un taux de pauvreté qui avoisine les 20% déjà, et donc qui est bien supérieur au seuil national. Et ce qui concerne aussi l'accès à l'emploi, on a un taux de chômage qui est au-dessus des 14%. Donc, il n'est pas simple, on le sait, dans l'Hérault, de trouver du travail. Bien évidemment, notre objectif, c'est d'accéder, de permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi. Donc, déjà par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en reprenant pied dans la société, en reprenant confiance en elles, en prenant une place dans notre association, en menant des activités, ça permet aussi de se sentir plus à l'aise pour aller demain devant un employeur. Et on valorise le bénévolat qu'elles font chez nous. Ensuite, tout le monde, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que tout le monde n'est pas accessible à l'emploi. Et ça, il faut l'entendre. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problématiques aussi, psychologiques ou psychiatriques. Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que c'est pas parce qu'on est au RSA qu'on ne fait rien. Et ça, c'est aussi important de changer les regards.
Expliquez-le, ça.
Oui, je vais l'expliquer parce que souvent, on a une représentation et aujourd'hui, dans le débat public, on entend parler de fainéants, de gens qui abusent du système. Voilà. Et je crois que c'est pas du tout le profil, justement, des personnes qu'on accompagne. Personne n'a envie de dépendre de quelqu'un. Personne n'a envie de dépendre d'une aide sociale qui, en plus, le RSA nous permet pas de vivre dignement. Faut quand même être clair avec ça. Donc, personne n'a envie de vivre de la solidarité nationale. Et en plus, on a sorti, il y a une année ou deux, au Secours catholique, un rapport qui s'appelle « Le boulot de dingue », en référence à ce discours qu'avait eu un de nos présidents en disant « ça coûte un pognon de dingue ». Et en fait, on avait étudié la journée d'une personne en précarité. Et en fait, on s'était rendu compte qu'elle n'avait pas une minute à elle, parce que souvent, comme je disais, elle s'occupe des... Il y a les enfants à s'occuper, puis on n'a pas les moyens de payer une garderie, on n'a pas les moyens de payer une assistante maternelle, donc on s'occupe des enfants, on s'occupe éventuellement d'un parent, et puis quand on n'a pas beaucoup d'argent, tout devient très compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans le magasin du coin faire ses courses. On va acheter ce produit-là, à cet endroit-là, parce qu'il coûte le moins cher. On fait une étude de marché extrêmement importante. Pour l'accès aux soins, c'est aussi extrêmement compliqué. Et on sait que la précarité aussi peut provoquer, générer des problématiques de santé. Voilà. Et ce rapport montre à quel point les personnes qui sont aussi en précarité, en pauvreté, travaillent. Et elles sont aussi beaucoup à donner de leur temps dans des actions bénévoles. Parce que l'avantage du bénévolat, quand on est un peu en fragilité, on peut le faire aussi quand on veut, au moment où on est bien, où les enfants sont peut-être pris en charge à un
puis
autre
on donne
moment.
Un sens,
et on donne un sens, effectivement. Voilà, mais il ne faut pas... C'est ça qu'on a envie aussi, au Secours catholique, de faire un peu changer les regards sur ces personnes qui sont en précarité, en pauvreté, parce qu'elles ne sont pas... Voilà, ce ne sont pas des gens feignants, abuseurs. Voilà, c'est aussi des gens qui donnent de leur temps pour la société civile. Et il y a un chiffre aussi qui est très parlant dans notre rapport aujourd'hui, qui indique par exemple que par rapport au coût total de la protection sociale, le coût du risque pauvreté et précarité, c'est-à-dire tout ce qui est lié au RSA, etc., c'est 4% seulement du montant total de la protection sociale. Parce que dans la protection sociale, vous avez le risque vieillesse, donc tout ce qui est le paiement des retraites, etc. Vous avez la santé,
oui.
Donc tous les remboursements de santé,
oui,
etc. Ça, c'est largement au-dessus du risque précarité-pauvreté qui ne représente finalement que 4%. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut... Et pourtant, on a l'impression, on entend souvent, on dit « Ah, ça nous coûte beaucoup d'argent. » Et ce qui est aussi repéré dans notre rapport, et c'est en lien avec des personnes sans ressources, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un taux de non-recours au droit qui était extrêmement important, d'abandon puisqu'il dépasse les 36%. C'est-à-dire que des gens qui auraient droit à certaines aides ne les demandent pas. Alors, elles ne les demandent pas. Souvent, quand on côtoie les gens au sein de nos accueils, elles le disent, mais moi, j'ai honte. Ou j'ai peur d'être stigmatisée. J'ai peur voilà, qu'on me renvoie une image extrêmement négative de moi. Donc, il y a des gens qui n'y vont pas. Et pour toutes les difficultés que j'ai énoncées tout à l'heure, la fracture numérique, le fait de soi de ne pas avoir les outils pour faire les démarches, de ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Voilà, il n'y a plus personne pour expliquer comment faire une demande de RSA. Il y a des droits qui sont coupés aussi du jour au lendemain parce que la personne n'a pas donné le papier qu'il faut. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui 36% de personnes qui pourraient avoir droit au RSA qui n'ont pas droit au RSA. Et on parle...
Et là, vous intervenez.
Là, vous intervenez. Oui, bien sûr. Là, notre objectif, toutes nos équipes, dans nos 45 équipes, on a des bénévoles qui font de l'accompagnement social et qui accompagnent justement vers l'accès à ces droits. Et d'ailleurs, la demande des accueillis a augmenté, justement, par cette demande d'aide administrative a augmenté de 7 points en une année, parce que les demandes sont effectivement de plus en plus importantes.
Vous accueillez aussi des migrants ? Comment
oui,
ça se passe ?
Oui, on accueille...
Vous avez des traducteurs, vous avez tout un système de logistique pour ces personnes-là ? Comment ça se passe ?
Alors, au Secours catholique, on accueille tout le monde. Donc, on accueille tous les gens qui sont sur le territoire français. On n'a pas de position par rapport à une politique migratoire, et ce n'est pas notre rôle. Par contre, à partir du moment où les gens sont sur notre territoire, notre objectif, c'est qu'elles puissent vivre dignement. Voilà. Donc oui, on accueille des personnes étrangères. Les personnes étrangères, c'est à peu près 50%, mais avec ou sans papier. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, on a 50%, un peu moins de 50% de personnes accueillies qui sont des personnes étrangères. Certaines avec un titre de séjour, d'autres sans titre de séjour. Quand on n'a pas de titre de séjour, on est en France et on n'a aucune source de revenus. Donc pour accompagner, on accompagne ces personnes aussi vers l'accès à leurs droits en travaillant avec des associations qui sont spécialisées dans l'accès aux droits, puisque nous ne le sommes pas, mais par exemple sur Montpellier, il y a la CIMAD qui est... Voilà. Et on a aussi, on travaille aussi main dans la main avec un SAMU avocat, c'est-à-dire un avocat qui est aussi un SAMU, comme un SAMU social, mais là c'est un SAMU avocat qui nous accompagne dans les démarches administratives un petit peu complexes. Voilà. Et donc oui, si on a besoin de traducteurs, bah, des fois on trouve aussi des accueillis qui peuvent traduire pour d'autres accueillis. On a un café solidaire, nous avons un café solidaire ici à Montpellier qui accueille, qui fait des repas. Et donc il y a aussi un échange interculturel qui est extrêmement riche. On a une carte avec l'ensemble des endroits d'où viennent les gens. Et voilà, ça participe aussi de la richesse de pouvoir... apprendre de la vie des personnes qui sont avec nous et qui, voilà, qui viennent d'autres pays. Ce qu'on se dit aussi, c'est que les gens partent de leur pays pas par envie, mais souvent parce qu'il y a des problématiques et on l'entend suffisamment sur...
conditions climatiques, conditions politiques.
Voilà, exactement. Ouais. Des gens qui ont été oppressés dans leur pays ou parce qu'il y a des problématiques, effectivement, climatique, des problématiques aussi pour trouver de l'emploi et vivre dignement.
Alors, le bénévolat, il y a beaucoup, hein, on l'a dit, plus pratiquement 60 000 bénévoles. Est-ce qu'il y a autant toujours de bénévoles ou pas ? Vous sentez qu'il y a un déclin ?
Alors, dans la délégation de l'Hérault, on a de la chance. Depuis 2 ans, on a augmenté notre nombre de bénévoles. On est passé de à peu près 800 bénévoles il y a 2 ans à 888 aujourd'hui.
La typologie, c'est quoi ? C'est des personnes retraitées ?
Plutôt des personnes retraitées, mais je pense que c'est un peu aussi de notre faute à nous. C'est-à-dire que nos activités, je dirais... Alors, c'est très bien, on est très heureux de les accueillir, en tout cas. Et ils sont très actifs. Et moi, ça fait 2 ans que je suis déléguée de l'Hérault et je suis vraiment admirative de ce que peuvent faire les bénévoles et de leur engagement et je trouve ça fantastique et du coup j'en profite vraiment pour les remercier. Ouais, et par rapport à l'engagement des bénévoles des plus jeunes, on a des difficultés un peu de difficulté parce qu'il faut qu'on adapte nos activités. Elles sont souvent, nos activités se déroulent en journée, en semaine, et les jeunes ou les jeunes, les plus jeunes étudiants ou les jeunes actifs sont plutôt disponibles en week-end ou en soirée. Mais en tout cas, on est ouvert. C'est-à-dire que nous, l'objectif du Secours catholique, c'est si on a de jeunes actifs qui ont envie de monter une action qui correspond aux valeurs du secours, qu'elles nous rejoignent. Et nous, on est prêts à les soutenir. Et si elles veulent l'ouvrir un samedi, un dimanche ou pendant les vacances, on est prêts, bien évidemment, à étudier tout ça. En fait, nous, on part des besoins d'un territoire, on part des envies des bénévoles et nous, équipe salariée, on les accompagne pour, voilà, pour répondre à ces besoins.
Ça fait à peu près une demi-heure que nous discutions. Anne-Sophie, je vois que vraiment vous êtes dans le cœur de l'action, hein, que vous aimez ça, mais vous avez un cursus universitaire, je suppose, qui est en corrélation avec ce que vous faites maintenant, ou alors c'est vraiment le hasard, la chance qui a fait que vous avez basculé dans ce secteur d'activité?
Non, j'ai toujours été très engagée.
Vous avez un cursus?
Oui, un cursus, j'ai été travailleur social pendant longtemps, et notamment en protection de l'enfance. J'ai aussi dirigé des maisons de retraite. Et voilà, je suis arrivée au Secours catholique et je trouve vraiment intéressant de pouvoir animer un réseau de bénévoles. Je trouve
ça
extrêmement riche.
Qu'est-ce que vous apporte?
Je pense qu'on a aussi au Secours catholique une liberté qu'on n'a pas forcément dans des établissements qui sont médico-sociaux et qui sont financés par uniquement l'État ou les collectivités locales. Voilà, on peut être extrêmement innovant, extrêmement créatif, on fait des rencontres incroyables, que ce soit avec les bénévoles qu'avec les accueillis. Oui, c'est un métier qui donne beaucoup de sens, en tout cas à mon engagement.
D'accord, et qui va durer encore longtemps?
Malheureusement.
Malheureusement.
Et puis on voit bien dans le contexte actuel et les contraintes budgétaires et nationales et les contraintes budgétaires que nous avons même dans le département de l'Hérault. Hein, on fait aussi des demandes de subventions et les collectivités nous soutiennent pour certaines de nos actions. Mais on sent que les choses vont être de plus en plus tendues. Et donc l'engagement bénévole risque d'être de plus en plus important et nécessaire pour créer et pour participer à créer cette société plus juste et plus fraternelle.
Bon, on va essayer d'y arriver.
Hein. Bah oui.
Alors, et le rôle de l'Église dans tout ça?
Alors, le rôle de l'Église, le Secours catholique, comme je vous le disais, a été créé par Jean Rodin. Et donc, nous sommes considérés comme service d'Église par l'Assemblée des évêques de France. Donc, nous travaillons et nos équipes locales travaillent avec les paroisses. L'objectif, c'est de participer à la diaconie et à l'aide aux pauvres. Ça fait partie de notre mission. Mais comme je le disais tout à l'heure, on accueille tout le monde de manière inconditionnelle, que ce soit les accueillis, que les bénévoles.
Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Anne-Sophie, les appels à dons, vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, le mail?
Alors, c'est pas un mail. Pour faire un appel à don, vous allez sur le site du Secours catholique, vous tapez Secours catholique et avez faire un don et vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir faire un don. Si vous voulez faire un don spécifiquement pour la délégation de l'Hérault, vous pouvez le faire aussi en envoyant un chèque directement à la délégation de l'Hérault qui se trouve 10 rue Ernest Michel à Montpellier.
Oui, c'est dans le quartier.
En indiquant sur quelle action vous aimeriez effectivement que cet argent serve. Et puis ce que je dirais aussi, ce dont on a besoin, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de bénévoles. Nous avons besoin d'avoir des bénévoles. Venez nous rejoindre. On tente aussi d'avoir et de permettre aux bénévoles d'avoir un bénévolat heureux. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous, se réaliser, de se retrouver. Il y a aussi des temps de convivialité, de fraternité. Certes, les missions des fois sont compliquées et on est confronté à des choses difficiles. On essaye aussi de prendre du plaisir dans nos actions, dans nos missions, en étant ensemble et en vivant cette solidarité.
Très bien. En parlant de solidarité, on va parler de ces fameux goûters solidaires. que vous organisez à travers le département
alors
de l'Hérault.
On est en période de Noël et on n'oublie pas toutes les personnes accueillies qui ne fêtent pas ou qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël. Donc on a beaucoup d'équipes dans l'Hérault qui organisent ce qu'on appelle des fraternes Noël, donc des goûters, des repas solidaires avec les personnes accueillies entre le 23 et le 25 décembre pour ne pas laisser les personnes isolées.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bon courage à vous. Je vous souhaite...
Merci en tout cas de m'avoir accueilli.
Mais je vous en prie. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve dans un peu plus de 2 heures pour une nouvelle émission de Si l'on en parlait. Et je vous souhaite donc un agréable appétit et à tout à l'heure sur les ondes de FM+. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir Anne-Sophie.